moi qui spise le yon jeté de sang. C'est dans ses chromosomes, ça a été prouvé. Il a le crime dans le sang, faut s'en débarrasser. Il a le crime dans le sang. Dans le sang, et donc tu es coupable. Je l'ai vu quand il coupait du bois. Son regard plein de haine m'avait rempli d'effroi. Cet homme est dangereux, il peut devenir violent. Il se promène en ville et fait peur aux passants. Il a le crime d'enfant, ça a été prouvé. Il a le crime d'enfant et on doit l'enfermer. Hey! Et sa peau est trop foncée à cause de ses ancêtres. C'est un meurtrier. Une balle dans la nuque pour plus de sûreté. Il avait le crime dans le sang. On les a intervenus à temps. Il a le crime dans le sang. Ça a été prouvé. Il a le crime dans le sang. Et on doit l'enfermer. Hey!
Sur ces belles paroles, bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où vous nous écoutez. Vous êtes à Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3, l'émission animée par les membres du collectif anarchiste de la nuit. Je suis Nicolas, en compagnie de
Guillaume
et Farouko, qui est aux tables tournantes et qui ne dira pas un mot comme d'habitude. Donc, cette semaine, on a un programme relativement chargé. Évidemment, on y échappera pas. On va parler des élections, mais comme il n'y a pas juste ça dans la vie, on va aussi faire le tour de tout plein de trucs sociaux. Tu nous as ramené, ma foi, une moisson internationaliste.
Oui, on va aller faire un petit tour en France. Ensuite, on va revenir sur notre continent pour aller faire un tour au Mexique. Puis ben, il y a des choses intéressantes qui se passent là-bas. Ça vaut la peine d'y aller.
Oui, ben justement, ben, on va revenir avec une chronique qui était présente dans la saison. La Minute du patrimoine révolutionnaire, avec une chanson, justement, mexicaine, très connue. Je vous en dis pas plus. Sinon, autrement, ben, c'est sûr que plus près de nous, il y a des choses qui se passent, notamment à l'Université du Québec en Outaouais, où il y avait une grève sur des enjeux locaux cette semaine, ce qui est chose de très rare. Et pour finir, nos traditionnels plugs, il semble que la semaine prochaine, ce soit la semaine des manifestations des groupes populaires. Donc, on pourra en parler. Mais en attendant, on va quand même aller en musique.
On va continuer en musique, oui. On a ouvert avec Banlieue Rouge, avec Le Crime dans le sang, spécial dédicace à la même personne que Billy the Kick de la semaine passée.
Ah, une auditrice fidèle.
Ouais, mais cette fois-ci, elle aime la tune, contrairement à la semaine passée. Alors, on va continuer avec MC Arabica et la pièce Jusqu'ici, tout va bien, sur les ondes du 88.3.
Vous venez d'entendre Farouko?
Eh oui, c'est très rare, mais... faut bien que je m'échauffe la voix pour vendredi.
Jusqu'ici tout va bien, dis-moi pourquoi tu la cherches. Je rentre en mousse, tu vois pas que l'équipe est derrière. Juste à part, ça fait boum, entendre briser les verres. C'est la batte qui débarque, qui vient chercher la mer. Et la peur part en vrac si on regarde de travers. Je parle à ceux qui ont rien à perdre, prêts à plonger dans le vide comme le parcours d'un kamikaze sous une ceinture explosive. Ne crois pas que tout va bien, jusqu'ici on survit tous les jours comme le sang. Avant d'enfiler la cagoule, charger le capot, rentrer dans la banque, bouge pas. Jusque là tout va bien sur le battement de ton cœur.
Jusqu'ici on progresse, on prend combien de temps. Épuise dans les caisses, sans regarder devant.
Là j'ai le sourire, mais mate les jeunes. À 10 ans ils ont déjà la peur de mourir. Tout va bien, on y gère, une crève de faim. Nos titres, nos putains de poulets, on la grippe. Les riches s'agrippent à leurs privilèges. Leur country club de merde, ils lâchent rien car ils ont trop peur de le perdre.
je demeure un homme libre. Il rêve de cramer, mais c'était comme un livre. Jusqu'ici, on avance, tout en serrant les dents. Droit vers l'extrême, la peur, le stress est dans.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici, tout va bien.
Accomplir nos destins.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Et on attend le reste. Jusqu'ici, tout va bien. Ils ont vu la fin du monde dans peu de temps, car elle reste bombe. Prête à changer le cours de l'histoire qui, elle, par contre, n'a rien à foutre de l'espoir. Comme ceux qui disaient que le hip-hop était mort, vous pouvez constater comme un sens de bord. Jusqu'ici, tout va bien, ils surveillent le trou. Et tu verras dans pas longtemps, fais ce que l'on couvre. Accroché au peu de choses qui reste chez nous le savoir. Jusqu'ici, tout va bien, on en va nos avoirs. Fier que notre arrêt de l'avoir. On chérit chaque jour, grande de sa gloire.
Jusqu'ici, tout va bien, le riche espoir se fond. La douane n'a pas vu ton corps. Ça part pas en couille dans la foule. Tu te prendras pas de mauvais coups dans la bouche. Tiens bien le savon dans la douche. L'étape de cul couche, tu mates le spectacle de la touche. Rien à foutre, on vit nos vies. On est tombé dans vos vices, mais là on est bien loin des novices. Poton c'est chaud, tout va trop vite. Jusqu'ici t'entends peiner, on en profite. On a le profil de ceux qui explosent à l'improviste. Quand le sol s'approche, on improvise.
Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien.
Pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Et on attend le reste pour accomplir nos destins.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Et on attend le reste.
Votez clown ou votez rien. La Nuit se lance dans la campagne électorale. Il y a justement bon, le collectif Anarchiste La Nuit, l'ANEFAC Québec, les joyeux animateurs de cette émission, qui ont répondu positivement à l'appel du collectif de résistance anticapitaliste du Saguenay. En effet, depuis lundi, il y a une affiche abstentionniste qui reprend une thématique de cirque, le cirque électoral est en ville, qui a fait son apparition sur les poteaux du centre-ville de Québec. Selon un illustre inconnu, même pas mandaté par le collectif pour en parler, le groupe a prévu coller 500 affiches, ce qui devrait être suffisant pour consolider notre avance dans les intentions de vote. À ce sujet, les paris sont ouverts. Qui des abstentionnistes ou du parti gouvernemental sera le plus populaire? Donc, voilà. C'était la première nouvelle locale. Si vous voulez voir l'affiche, vous pouvez regarder sur les poteaux près de chez vous ou aller sur notre blog, voie de fait avec un X et un S.blogspot.com. Sinon, ben, les élections se suivent, mais ne se ressemblent pas, et comme dirait un commentateur, ils ne rassemblent pas non plus. En effet, il y a un communiqué, la CONIC, qui est tombé dimanche. La FTQ n'appuiera aucun parti politique en vue du 8 décembre. Ça a été une des grosses nouvelles de la semaine. Rappelons que la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, le nom au complet féminisé, mais pas l'acronyme, avait appuyé le PQ en 2007, mais qui était resté neutre en 2003 et en 1998. Ce qui est, en fait, la neutralité de la centrale, c'est l'exception qui confirme la règle d'habitude, parce qu'en général, ils finissent par appuyer quelqu'un. Pourquoi la centrale appuie pas le PQ cette fois-ci, mystère et boule de gomme? C'est, semble-t-il, la position qui s'est nettement dégagée du bureau de la centrale qui s'est tenu samedi. Le bureau, ça, c'est la plus haute instance de l'organisation. En fait, c'est leur exécutif.
Et ça serait pas parce que la Marois a trop de bijoux.
Non, c'est pas parce que la Marois a trop de bijoux. Ceci dit, en fait, ce qu'on a fini par apprendre, c'est qu'ils trouvent qu'il était plutôt tiède, le PQ, dans l'appui aux positions de la centrale. Et que donc, dans ce contexte-là, il n'était pas très intéressé. Peut-être, je dis bien peut-être, que le brasse camarade qu'il y a eu dans le comté de l'Assomption n'est pas complètement étranger à la tiédeur de la centrale. Il faut savoir que, on a vu dans les médias les batailles qu'il y a eu autour de l'Assemblée d'investiture du comté, l'Assemblée d'investiture péquiste du comté de l'Assomption. Il faut savoir que sur l'exécutif local qui appuyait la candidature de Saint-André, l'ancien député péquiste du coin, il y a un certain Michel Parent, qui s'est rendu jusqu'à la conférence des présidents du PQ pour déposer une motion disant qu'il n'y avait plus de démocratie dans le parti, puis qu'il fallait absolument que l'Assemblée d'investiture soit annulée et qu'on permette à tout le monde de se présenter, puis que les membres votent pour décider c'est qui. Monsieur Michel Parent, c'est le président du syndicat d'École bleue de la FTQ de la ville de Montréal. Et donc, et c'est aussi le seul syndicaliste pas à la retraite, membre du syndicaliste et progressiste pour un Québec libre. À l'interne du PQ. Donc, peut-être que ceci expliquant cela, c'est aussi un des syndicats les plus politiques de la FTQ, un de ceux qui drive le plus pour ce genre de dossier-là. Donc, bon, ça fait un plus un, ça fait deux. Fait qu'il y a des possibilités que ce soit aussi une des raisons. La TCDA viendrait aussi peut-être de là un peu. Notons par ailleurs que la CSQ et la CSN tiennent le même genre de position depuis toujours, c'est-à-dire une position de neutralité. Les statuts de la CSN interdisent même d'appuyer un parti. Au pire du pire, ils peuvent dire de voter stratégique puis de pas en faire passer un, mais d'habitude, ils s'en mêlent pas. Par contre, il y a certains syndicats, certaines instances qui font bande à part. Il y a, entre autres, le Conseil central de Montréal, la CSN, qui a choisi en Assemblée générale d'appuyer Québec solidaire, en particulier les deux porte-parole qui auraient, selon eux, des chances d'être élus. Puis là, ben là, je vais citer le président du Conseil... Le président. Il y avait une présidente par intérim, puis là, maintenant, il y a un président qui dit que, sans affirmer que Québec solidaire peut représenter une grande force politique à l'échelle nationale, il existe cependant une possibilité de faire des percées dans la région de Montréal. Leur élection à l'Assemblée nationale serait, selon le syndicat, importante, puisqu'une brèche serait alors ouverte pour permettre à la circulation et la promotion d'idées progressistes sur la scène politique québécoise. Au Conseil central, nous croyons qu'il s'agit d'un objectif réaliste auquel il faut s'attaquer dans les plus brefs délais. L'unité des forces progressistes est fondamentale pour atteindre ce but. Bon, on peut en penser ce qu'on en pensera, reste que le Conseil central, finalement, appelle ses membres à militer et voter pour Québec solidaire. Just too bad pour Pauline. Dernière nouvelle syndicalo-électorale, il y a une nouvelle venue dans la blogosphère. C'est tout nouveau, tout chaud.
Qui est-ce?
Claudette.
Claudette?
Wow. Oui, Claudette Carbonneau, la présidente de la CSN, qui a lancé son blog et qui nous a mis en lien... Donc, c'est csn2008.blogspot.com. C'est un point de vue syndical. C'est juste pour la campagne électorale. Puis, en fait, c'est pour casser du sucre sur le dos d'un peu tout le monde en ramenant des positions progressistes, syndicalistes. Et voilà.
Bon. Ben, ça donnera. D'un autre côté. Ce matin, on apprenait en une du devoir que l'organisation, la Commission de la santé et de la sécurité au travail, la CSST, est l'acheteur numéro un de soins privés au Québec. Ça donne un peu une piste de pourquoi les soins de santé sont en voie d'être privatisés de plus en plus au Québec. On parle de près de 1,5 milliard qui a été versé au privé en 5 ans. D'après les experts cités dans l'article en question, c'est effectivement un des gros facteurs, puis ça va l'être de plus en plus, parce que c'est une tendance qui est observable partout au pays et aussi dans la plupart des pays qui ont un système semblable au nôtre. La raison en est relativement simple, c'est que, bon, on se doute bien que les employeurs à l'origine n'étaient pas... Ils sont pas très favorables à ce genre de commission-là parce que ça leur coûte très cher en cotisation et autres frais. Par la porte d'en arrière, si on peut dire, on tente d'ajuster la commission à leurs besoins immédiats, soit que leurs travailleurs reviennent le plus rapidement possible au travail, donc évite les files d'attente du public. Alors de plus en plus, on paie le gros prix. On pousse la CSST en fait à payer le gros prix pour aller dans le privé, pour que les gens, les travailleurs, travailleuses qui sont en arrêt de travail aillent vers le privé. Ce qui fait en sorte qu'on débauche de plus en plus de professionnels qui sont de plus en plus rares aussi dans le système public. Donc, on allonge les files d'attente. On crée donc aussi une hiérarchie, bref, dans les gens à soigner. Si on fait pas partie de la force de travail active et si on fait pas partie de ces gens qui importent pour notre force capitaliste locale, on passe en dernier. C'est bien dommage.
C'est un simple calcul comptable qu'ils font, c'est que payer 6 semaines, 8 semaines de salaire à un employé, c'est plus cher que l'opérer direct là au privé.
Exactement, on parle de comme 50 000 $, je pense, qu'ils épargnent par personne, par les coûts de formation et autres de personnes remplaçantes et tout ça. Là. Donc,
il y a tout l'enjeu aussi de la rapidité des tests.
Ouais.
Pour avoir les tests plus rapidement, puis aussi tout simplement que plus rapidement tu interviens, plus vite tu règles le problème.
C'est ça.
Ce qui fait que ça coûte moins cher. Hey! Ça va pas bien?
Non.
Dans un autre dossier, il y a des étudiants et étudiantes, en fait, qui sont soldats face à la répression. C'est un dossier qui se passe en Outaouais, mais qui n'est pas sans rappeler certains dossiers qui ont secoué la gauche étudiante de Québec, notamment sur le campus de l'Université Laval avec le collectif de minuit. Qui je crois existe encore ou est encore actif un peu. Il y a des étudiants de l'Université du Québec en Outaouais qui ont fait grève le 11 novembre dans le cadre d'une journée de solidarité étudiante contre la répression. En effet, dans le cadre d'une lutte contre un monopole alimentaire et pour l'ouverture d'un café étudiant tout géré, la répression s'est abattue sur une demi-douzaine d'étudiants de l'Université du Québec en Outaouais, LUCO. 5 d'entre eux ont reçu une réprimande écrite et un 6e a été suspendu pour la totalité de la session en plus d'être interdit d'accès aux différents établissements de l'UQO. Ce qu'on reproche au juste aux étudiants, d'après le droit du 21 octobre, l'affaire remonte à des incidents qui sont survenus en septembre dernier à la cafétéria de l'université, alors que des étudiants avaient organisé un boycott des services offerts par l'exploitant de la cafétéria, la compagnie La Liberté, en raison de la fermeture du café étudiant. Lors du boycott, les étudiants distribuaient de la nourriture gratuitement à leurs collègues. Ils avaient organisé un comptoir parallèle au comptoir de la cafétéria. D'après le journaliste, un groupe d'étudiants a alors été menacé de suspension, mais seul l'un d'entre eux l'a été pour le reste de la session d'automne. On aurait aussi reproché à cet étudiant-là d'avoir enregistré les propos du doyen des études, ce qui est par ailleurs parfaitement légal. Le porte-parole de l'Université du Québec en Outaouais, Jean Boileau, a justifié la suspension en indiquant que l'étudiant a contrevenu au code de conduite de l'UQO en perturbant le fonctionnement du service alimentaire. Ouh, les dangereux contestataires.
Ah, mais là-dessus, le collectif de minuit s'en était sorti en se montrant un peu plus fin que l'administration, c'est-à-dire à grands coups d'avocat de Ligue des droits et libertés.
Ouais, ben c'est pas tout à fait le chemin qu'ils ont pris, parce que pour une raison qui m'échappe, là, les associations étudiantes concernées pèsent pas beaucoup sur l'identité de l'étudiant qui est suspendu. Pourtant, d'après un communiqué de l'Alliance de la fonction publique du Canada, ce communiqué-là est particulièrement éclairant. En effet, David Clément, c'est son nom, est président du syndicat des étudiants salariés de l'UQO, un syndicat qui est affilié à l'Alliance, et est aussi président de l'association étudiante du module des sciences sociales, et les 5 autres seraient des leaders étudiants, selon le syndicat. Donc, en plus de restreindre grandement la liberté syndicale de David Clément, qui est quand même un élu, la suspension le prive d'un revenu comme assistant de recherche tout en retardant de plusieurs mois ses études. Bon, il me semble que c'est pas anodin. Pour contester et dénoncer la gestion autocratique et la répression de la direction de l'UQO, ça c'est les termes des associations étudiantes, il y a les associations étudiantes des modules de sciences sociales et du module de psychoéducation de l'UQO qui ont lancé un ultimatum à l'administration la semaine dernière, jeudi en fait, soit l'UQO retire la totalité des sanctions contre les étudiants et le directeur du service des terrains et bâtiments démissionne, soit les associations étudiantes modulaires appellent à une journée de solidarité étudiante le 11 novembre, en plus de décréter une grève pour cette journée-là. Il y a du travail entre l'ultimatum et le 11 novembre, il y a du travail qui a été fait. Il y a 2 autres associations modulaires de l'UQO, Travail social et psychologie, qui ont également appelé à la grève. Selon ce que je comprends, ça fait la totalité d'un des campus, c'est ça?
C'est peut-être pas la totalité, mais en tout cas, c'est sûrement la majeure partie de ce campus-là, oui.
Bon. En plus, l'Association générale des étudiants de l'UQO a appelé ses quelques 5500 membres à participer activement à la journée de solidarité étudiante. Et selon une dépêche de Radio-Canada, il y a une trentaine de militants qui tenaient les lignes de piquetage devant le taché, tandis que à l'intérieur des équipes volantes voyaient à ce qu'aucun cours de psychologie, de psychoéducation, de sciences sociales et de travail social ne se tiennent. De son côté, l'Alliance de la fonction publique dénonce les mesures d'intimidation prises à l'endroit des étudiants et des étudiantes de l'UQO et appuie les associations qui ont été en grève le 11 novembre. La vice-présidente régionale, exécutive régionale de la FPC, Maria Fitzpatrick, estime que la suspension et les lettres de réprimande sont des mesures d'intimidation qui doivent être annulées. Ce type d'action vise à bâillonner une opposition légitime et non violente et c'est complètement démesuré. Ça n'a pas sa place au sein d'une institution où doivent être encouragés les débats. Et la syndicaliste de continuer que, en fait, ils sont en faveur de la liberté d'expression et ce qu'ont fait les étudiants sanctionnés n'est que l'expression démocratique et pacifique de ce droit. La direction de l'UQO devrait avoir honte d'avoir utilisé des moyens aussi radicaux pour museler une opinion dissidente. Cette attitude au sein d'une université du réseau public québécois est incompréhensible. Donc le syndicat demande la levée immédiate des sanctions. Faudrait pas oublier, tout ce branle-bas de combat-là concerne la volonté des étudiants de se réapproprier les services alimentaires sur le campus. C'est donc dans ce contexte hostile-là que fut créée une coopérative de solidarité. Là aussi, on peut voir des parallèles avec l'Université Laval, où il y a aussi une coopérative des cafés qui a été créée pour autogérer les cafés-bars. Le projet a suscité l'implication et l'engouement de la communauté universitaire. Et du côté des étudiants, Caroline Bourbonnet, la porte-parole de l'Association des étudiants du module de sciences... Sciences sociales, oui, déclarait qu'en plus de s'attaquer à la liberté d'expression et d'association des membres de la communauté universitaire, l'UQO cherche en fait à ralentir un projet étudiant dynamique qui est mobilisateur et rassembleur, qui est en fait la réappropriation des cafés-bars par l'entremise de la coopérative. Et l'association donc dénonce cette dérive fascisante des établissements d'enseignement à laquelle l'UQO participe activement. Donc les associations en lutte de l'Université du Québec en Ottawa militent ardemment, c'est leur terme, en faveur de l'octroi de la gestion des cafés-bars à la coopérative de solidarité créée par les étudiants. Coopérative qui s'appelle l'Autogérée. C'est un joli nom. Mmh. Bon, malgré les moyens de pression, il semble que l'administration serait quant à elle restée sur sa position et annonce, en tout cas elle annonçait à Radio-Canada hier, le 11 novembre, annonçait à Radio-Canada qu'elle appliquerait à la lettre les sanctions et que par ailleurs un appel d'offres serait lancé pour confier la gestion du café étudiant et de la cafétéria à une seule et même entreprise. Et donc voilà, la coopérative de solidarité étudiante va-t-elle devoir trouver refuge à l'extérieur des murs du campus alors que le privé, lui, est accueilli à bras ouverts? Ce serait un peu spécial, quoique pas sans précédent. On a juste à penser à toute l'histoire du Café Campus qui, à l'Université de Montréal, avait commencé d'abord comme un service autogéré de restauration offert par l'association étudiante avant de se transformer en coopérative autonome, en coopérative de travailleurs et finalement en bar vraiment loin du campus. Mais pendant longtemps, ça a été très proche du campus de l'Université de Montréal. La lutte continue donc. Fait que pendant qu'il y en a qui gèrent des pubs, il y en a d'autres qui ont de la misère à avoir un café. Voilà. Pour moi, c'est ce qui fait le tour des nouvelles locales, je crois. Mm-hmm. On va pouvoir aller en musique.
Oui, on va enchaîner avec Esclave Salarié avec un cover, et pardon l'anglicisme, une reprise de Quand meurent les légendes. Mais j'ai aucune idée c'est qui l'original. J'ai pas lu les notes, mais c'est pas de eux.
Je
Vous êtes toujours à voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Ben, pendant qu'à Québec, on est en campagne électorale, aux États-Unis, on vient d'en terminer une. Il y a les patrons qui ont peur. On a beaucoup épilogué sur le facteur racial à propos de la récente élection américaine, sans trop s'étendre sur le facteur de classe, à part peut-être pour se demander si la classe ouvrière blanche allait pouvoir soutenir un candidat noir. C'était peut-être passé un peu vite à côté de certains enjeux fondamentaux pour le syndicalisme dans la dernière élection américaine. Il y a la FTQ, par exemple, qui vient... qui s'est farci un communiqué la semaine passée annonçant sa satisfaction à l'élection de Barack Obama. De casser pourquoi la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec est contente de l'élection de Barack Obama, mais on peut comprendre à la limite que les chefs d'État envoient des félicitations, mais là, une centrale syndicale locale. C'est en fait, selon le président de la FTQ, c'est que le nouveau président désigné s'est prononcé à de multiples occasions avant et pendant la présidentielle américaine en faveur des droits des travailleurs et des travailleuses, en faveur du droit à la syndicalisation et de son exercice sans entrave. Ça ne peut qu'être une bonne nouvelle pour la classe ouvrière américaine dont le taux de syndicalisation est en constant déclin depuis près de 50 ans. Juste pour vous donner une idée, alors que dans les années 40, ils étaient plus syndiqués que nous aujourd'hui, on est à peu près 40% de syndicats au Québec et 8% aux États-Unis. C'est également une bonne nouvelle pour le mouvement syndical québécois dont les assises seraient renforcées selon la FTQ par une poussée de la syndicalisation chez nos voisins du Sud et par la mise au rang encore de pratiques antisyndicales et anti-travailleurs qui sont malheureusement légion chez de nombreux employeurs. On peut le voir par exemple avec Walmart qui parfois servent de modèle comme on l'a vu chez nos voisins ontariens pour le processus de syndicalisation. De plus, nous sommes souvent aux prises avec les mêmes employeurs américains, a rappelé Michel Arsenault, ça c'est le président de la FTQ. Face à la crise financière et économique d'une ampleur sans précédent que subissent de plein fouet les travailleurs américains, un meilleur accès à la syndicalisation permettrait de canaliser les solidarités et de redonner ne serait-ce qu'un peu d'espoir au moment où des milliers de personnes perdent leur maison, leur fonds de pension et souvent les économies de toute une vie. Donc, il est vrai que Barack Obama a tenu des propos plutôt inusités dans la bouche d'un candidat à la présidence. Un exemple qui, justement, nous est fourni par gracieusement par la FTQ. Voilà, c'est une citation de Barack Obama alors qu'il était non pas encore candidat à la présidence, mais qui se battait contre Hillary Clinton lors des primaires. « Nous sommes désormais prêts à considérer les difficultés du mouvement syndical. Il est temps que nous nous donnions un président qui ne s'étouffe pas simplement en prononçant le mot syndicat. Nous devons renforcer nos syndicats en les laissant faire ce qu'ils font de mieux, recruter et syndiquer nos travailleurs. Si une majorité de travailleurs veulent un syndicat, ils devraient avoir un syndicat. C'est aussi simple que ça. Nous devons nous tenir debout face à un lobby des affaires qui a obtenu l'appui de ses amis au Congrès et à la Maison-Blanche pour bloquer la syndicalisation par la signature de cartes d'adhésion. C'est pourquoi j'ai fait partie des leaders dans la bataille pour faire passer la loi sur la liberté de choix des salariés. C'est pourquoi je me bats pour cette loi au Sénat et c'est pourquoi nous en ferons une loi de ce pays lorsque je serai élu à la présidence. » Donc, c'est ce que Barack Obama déclarait lors d'une intervention à Dubuque, en Iowa, le 13 novembre 2007. Est-ce que c'est un discours de politicien? Sans doute. Mais les patrons américains préfèrent ne pas prendre de chance. En effet, les grandes corporations comme Walmart ont lancé la semaine dernière une contre-offensive sous la bannière de la, retenez-vous pour pas rire, coalition pour un lieu de travail démocratique. Donc, ce sont les grandes entreprises américaines. Il y a même une campagne de publicité télévisée d'une démagogie extrême qui vient d'être lancée pour faire pression sur les alliés d'Obama au Sénat. En fait, on est en train de dire... on dénonce la syndicalisation par signature de carte. Pour faire une histoire courte, aux États-Unis actuellement, lorsqu'il y a une majorité de travailleurs et travailleuses qui veulent se syndiquer, il y a une demande qui est déposée auprès d'une instance fédérale et une élection à scrutin secret qui est organisée. Et le processus dure plusieurs mois, ce qui laisse en masse le temps au patron de faire toute la campagne possible et imaginable et quitte à licencier les syndicalistes, alors que au Québec, on a un système où si un syndicat est en mesure de prouver à l'instance étatique qu'il y a une majorité de gens qui ont signé une carte d'adhésion, alors à ce moment-là, l'accréditation est donnée. C'est ce que veulent les syndicats américains, c'est ce que proposerait la loi qui est actuellement examinée par le Sénat. Ce serait, on calcule qu'en très peu de temps, ils pourraient doubler le nombre de syndiqués aux États-Unis s'ils acceptaient ce type de loi-là. Il faut savoir qu'il y a, finalement, c'est la dernière chose là-dessus, il y a plusieurs syndicats américains qui ont imposé cette pratique-là aux employeurs dans leur secteur, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, parce qu'ils ont le droit de grève dans les périodes entre les quand ils sont en train de se syndiquer. Et donc, il y a le HERE, Hotel and Restaurant Employee, qui pratique ça et qui demande ça vertement.
J'ai une question.
Oui.
Y ont-ils la formule RAND?
Oui. Ben, pas dans tous les États. Il y a des right to work states. Mais ils ont l'équivalent de la Formule REN.
C'est tout?
C'est tout.
Bon. On va aller en France alors.
Ben, chose qui se passe en France, hein?
Oui, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez entendu aujourd'hui, on annonçait, en fait, quelques grands médias qui ont annoncé ça, qu'il y avait eu des sabotages sur les lignes de chemin de fer en France, des sabotages sur les lignes à haute tension, qui parce que c'est des trains qui, alimentés par l'électricité qui sont en France, les TGV, qui auraient été sabotés. Puis les saboteurs accusés par l'État, ben ce serait des anarchistes, en fait, des communistes libertaires même.
La mouvance anarcho-autonome.
Ouais, quelque chose du genre.
C'est ce que la ministre de l'Intérieur disait.
OK. Ben, c'est en fait, c'est la Fédération anarchiste qui est directement accusée, la Fédération anarchiste française, donc, qui est accusée de ça. Bon, il y a plusieurs choses qui sont douteuses là-dedans. Entre autres, bon, actuellement, les syndicats de la SNCF, la Société nationale du chemin de fer en France, sont en négociation ou en voie de l'être. Puis les moyens de pression ne sont pas encore enclenchés. Mais l'État est assez déterminé à casser tous les droits des syndicats avec Sarkozy, on sait. En soi, ça fait en sorte que là, on essaie de casser toutes les possibilités qu'il pourrait avoir de moyens de pression sur ces lignes-là. Mais on dit aussi que c'est seulement des spécialistes qui pourraient être habilités à faire ce genre de sabotage, parce que bon, le sabotage en soi, c'est d'aller poser une espèce de morceau de fer sur la ligne comme telle, une ligne à 25 000 volts, donc une ligne électrique qui est extrêmement dangereuse, puis que ça te prend un équipement extrêmement spécialisé pour le faire. Donc on dit des anarchistes comme ça qui ne connaissent pas le système, qui sont pas nécessairement équipés et donc auraient été capables de faire ça quand même. C'est douteux, mais bon, en fait, c'est exactement ce que certaines personnes en France aussi soulèvent. D'ailleurs, ce qui est soulevé par une de ces personnes-là sur un site internet qui est mai68.org, oui, c'est ça. Donc, que les coupables pourraient très bien être les services secrets français, en fait. Parce que, bon, d'une part, parce que pour saboter les caternaires des caternaires des TGV, faut être un spécialiste. Puis, donc, on nous dit en même temps que des personnes d'ultra-gauche qui n'ont aucun rapport avec la SNCF auraient fait ça. Donc, dans quel cas une partie de la mouvement d'ultra-gauche aurait-elle pu avoir une certaine pratique du sabotage à la SNCF? Ben, la réponse, dans le fond, ce serait pour empêcher les gens d'aller au boulot pendant une puissante grève reconductible, c'est-à-dire uniquement dans le cadre d'un mouvement social tellement fort qu'une partie non négligeable de la population et des employés de la SNCF prendrait parti pour les saboteurs, et à la condition qu'il n'y ait aucun risque pour les employés de la SNCF, ni pour les passagers. Mais en ce moment, ben, il n'y a pas de mouvement social réel à la SNCF, puis les personnes d'ultra-gauche n'ont aucune raison à participer à de tels sabotages. Par contre, c'est ça, il y a quelques mois, le pouvoir s'en est pris de nombreuses fois à l'ultra-gauche, donc c'est aux communistes libertaires, bref, en disant qu'il y avait une résurgence de cette tendance et que des actes de violence étaient à craindre. Ce faisant, ben c'est ça, le pouvoir aurait plutôt déterminé sa cible, qui considérait comme son principal ennemi. On entend sur les grands médias en France que ce serait ces personnes-là qui auraient fait ça, tout en mentionnant que ce sont ces personnes-là qui se retrouvent souvent dans des manifs du style anti-G8 pour y commettre des actes de violence, en clair, pour participer aux émeutes. On associe aussi ces actes-là envers des émeutes racistes qui ont eu lieu en France récemment. Donc, en fait, contre la façon dont les racistes sont traités...
Il y a eu de nouvelles manifestations antifascistes radicales. Il y a eu une répression par les renseignements généraux contre les antifascistes radicaux, chose qui s'était pas vue depuis extrêmement longtemps.
OK. C'est beaucoup plus clair que dans le communiqué que j'ai là. on accuserait donc les services français d'avoir fait ça, les services secrets français d'avoir fait ça. Puis la personne du site mai68.org en veut pour preuve aussi que le site a été complètement fermé pendant une bonne partie de la journée d'hier, de mardi, donc et en réaction à cela, elle a envoyé un email comme de pour dénoncer ça et en disant ben que ça coïncide pas mal avec l'heure à laquelle j'ai mis cette nouvelle là sur le site. Et bon, après quelques temps qu'elle avait envoyé ce email là, pouf, le service est revenu. Puis en tout cas, il y aurait ça ferait donc deux preuves possibles de l'accusation des services secrets dans cette.
Ce qu'il faut savoir, c'est que également par rapport à tout ce dossier-là, il y a un renouveau de la criminalisation en France. Il y a des choses qui s'étaient pas vues depuis les années 80 qui se revoient, entre autres des antifascistes radicaux. Les renseignements généraux sont débarqués là, dans tout plein milieu pour arrêter des gens, juste pour vérifier qu'est-ce qu'ils avaient fait pour des trucs relativement mineurs. Et il y a aussi toute une répression à rebours sur la lutte contre la CPE puis pour les retraites. Il y a quand même eu dans les derniers mouvements sociaux, des épisodes de confrontation assez intéressants, mais bon, pas nécessairement très qui se démarque beaucoup de ce qui peut s'être fait à d'autres moments. Ce qui se démarque, c'est la réaction de l'État qui, avec Sarkozy, veut pas tolérer ça du tout. Mm-hmm. Et là, on parle. En ce moment, on est en train d'essayer de se créer un ennemi commode, mais il y a quand même eu une vague d'arrestations là, suite à tout ce branle-bas de combat-là. Oui. Là, il y a une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées, une dizaine qui semble-t-il, seront inculpées. Puis, il y a un film sur la bande à Bader qui vient de sortir. Il y a quand même tout un climat qui s'installe et on suppute que, étant donné le climat politique actuel, puis le recul d'une certaine extrême gauche au niveau électoral, ben ce serait possible qu'effectivement il y ait une résurgence du terrorisme et tout. Donc ça va être un dossier à suivre, et c'est vraiment pas évident. Et très, très, très conjoncturellement, la vague des arrestations est arrivée à l'avant-veille de la première manifestation unitaire des cheminots contre le dernier plan de privatisation.
Ouais. Un peu de tout. Donc, bon...
Ben, ici, on allait au Mexique.
Oui, allons au Mexique, où c'est pas plus joyeux, je dirais. En fait, j'ai trois axes en particulier qui sont pas particulièrement drôles dans ce qui se passe en ce moment au Mexique. Moi, j'ai trouvé ça juste aujourd'hui, mais c'est arrivé il y a un mois. En fait, c'est une répression intensive qui a eu lieu contre des professeurs dans le Morelos, un État mexicain. Donc, une répression extrêmement violente de professeurs qui, dans le fond, luttent actuellement contre une privatisation du système d'éducation publique. En fait, faut savoir qu'au Mexique, il y a un article dans la Constitution qui définit l'éducation comme étant publique et qui doit être accessible à tout le monde. L'UPAM est un grand exemple, un grand fleuron du Mexique dans cette une université qui est à Mexico. Donc et qui est à toute fin pratique gratuite. Maintenant, les professeurs s'organisent contre c'est une alliance qui veut en fait la privatisation de l'éducation et en soi, ça va contre les principes. Et ces professeurs-là ont été en grève pendant 54 jours jusqu'au 10 octobre. Et à ce moment-là, ils étaient en train de bloquer des routes dans la région du Morelos. Et les forces de l'ordre sont intervenues, mais sont intervenues de façon extrêmement brutale. On parle de 2000 policiers anti-émeutes, de 6 hélicoptères, de l'arsenal complet, les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc, etc. On disait aussi dans une vidéo qu'il y avait sur le CEMAC qu'on frappait tout ce qui bougeait, peu importe son âge. Donc, on a frappé des personnes relativement âgées et des enfants aussi. Donc, cette répression-là a été dénoncée par les professeurs, mais il y a eu quand même, on dit, une vingtaine de blessés et 46 arrestations. Donc, c'est quand même... il y a même des personnes disparues, dont on n'a pas eu de nouvelles, on n'avait pas eu de nouvelles à ce moment-là. Donc,
est-ce que le spectre de Oaxaca flotte sur l'État du Morelos?
Oui, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs
similitudes
et il y a beaucoup de grogne populaire parce que suite à aux arrestations et tout, les gens se sauvaient et là, les policiers sont rentrés dans les maisons, sont allés chercher des gens, les ont arrêtés. Ils ont même arrêté des gens de la place, des villages et tout.
Ce qu'il faut peut-être savoir pour nos auditeurs, nos auditrices, qui pourrait peut-être jeter un éclairage un peu différent. Dans la plupart des États ruraux du Mexique, les syndicats de professeurs, en fait, c'est des syndicats de primaire et secondaire, et leurs membres sont à très forte majorité indiens. Parce que c'est une job qui est vraiment pas valorisée au Mexique. Et donc, il y a tout un facteur racial qui rentre en ligne de compte dans la répression contre les mouvements de professeurs. Parce que souvent, ils ont aussi l'appui de tout leur village et toute la communauté. Donc, d'où la présence de vieillards et d'enfants dans des manifestations d'enseignants. Et d'où aussi la féroce répression de la police et de l'armée. Parce que, ben, dans le fond, c'est des enseignants, mais c'est aussi beaucoup des paysans indiens qui ont en face d'eux.
Mm-hmm. Donc, c'est à suivre. On n'en entend pas beaucoup parler dans les grands médias, mais c'est une situation qui est certainement très chaude dans ce coin-là. Ensuite, en lien avec ça, dans la plupart des États où il y a de ce genre de mouvement de contestation-là, entre autres, on parle de Oaxaca, justement, il y a récemment, ou en tout cas relativement récemment, un journaliste new-yorkais, un journaliste indépendant, Brad Will, qui a été assassiné par les forces paramilitaires du gouverneur de Oaxaca. En fait, c'est ça, on dit que la culture de l'impunité et de la violence font partie du quotidien des journalistes qui ne se conforment pas avec l'opinion émise par les monopoles de l'opinion, comme au Mexique Televisa et TV Azteca, puisque le Mexique vit une situation de violence comparable à celle d'Afghanistan ou d'Irak. Bon, on n'a qu'à penser aux cartels de la drogue qui sont organisés en véritables paramilitaires, souvent mieux équipés que l'armée, qui a puis l'armée, en fait, agit à peu près comme les paramilitaires. Entre autres, dans le trafic de la drogue, on dénonce souvent dans ces communautés-là le fait qu'au plus haut niveau du gouvernement, il y a aussi de la collaboration avec ces groupes-là. Cette répression envers les journalistes qui ne se conforment pas, c'est de tout acabit, dans le fond, la liberté d'information qui est réprimée. Donc, on dit qu'en démocratie, dans le fond, la liberté d'information est supposément un droit inaliénable pour tous ceux et celles qui veulent diffuser de l'information selon leurs opinions. Mais au Mexique, en arrière du semblant de démocratie, se cache la dictature du silence. La liberté d'expression sont un mythe qui peut se payer très cher, comme dans le cas du journaliste Brad Will. Puis la culture de l'impunité et la violence font partie du quotidien des journalistes qui ne se conforment pas avec l'opinion. Mais ça, j'ai déjà dit. C'est actuellement ce qui se passe avec les médias mexicains. Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi on n'a pas de nouvelles de ces répressions de professeurs.
Dans le cas de Brad Will, ce qui est particulièrement troublant, il a été assassiné il y a un an. En fait, là, on vient de passer le premier anniversaire et il y avait beaucoup de pression sur le fait que justement, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu. L'État, en fait, n'a pas fait sa job là, normal là-dessus. Et en réponse à ça, il y a toute une série d'activistes de la peau. L'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca ou une affaire comme ça. Là. En tout cas, bref, l'organisation de lutte à Oaxaca, proche de laquelle Brad Will était puis que Brad Will soutenait, qui ont été arrêtés par l'État et ont dit qu'en fait, ce serait eux qui auraient assassiné Brad Will. Alors, il y a toute une nouvelle vague de répression qui joue autour de ça. C'est assez dégueulasse, merci.
En effet. On parle beaucoup de du miracle mexicain, mais aussi de comme des immigrants illégaux mexicains qui s'en vont aux États-Unis. On apprenait cette semaine, il y avait un reportage tout luisant, tout brillant sur Bombardier qui s'en va s'installer au Mexique et qui, dans le fond, s'en va pratiquer, s'en va faire construire ses avions là-bas pour le quart des salaires qu'on a ici. Ce qui représente quand même des conditions relativement bonnes pour les gens là-bas, mais on s'installe dans un endroit sécurisé, loin de Mexico où la plupart des tensions sont et loin de la frontière mexicano-américaine aussi où il y a beaucoup de tensions effectivement. Donc, on voit que l'ALENA a aussi on profite aussi de l'ALENA, nos capitalistes locaux profitent de l'ALENA envers le Mexique aussi. Donc, il n'y a pas seulement les Américains qui viennent au Canada pour profiter de nous, il y a aussi
beaucoup de nous
qui vont profiter du Mexique, effectivement. Donc, c'est la situation actuellement et...
C'est l'impérialisme qui est en train mexicain.
C'est l'impérialisme qui est en train mexicain.
C'est un dossier qu'il va falloir suivre.
Aussi.
Ça va être le moment de la Minute du patrimoine révolutionnaire. La Minute du patrimoine est une chronique musicale, l'idée de faire connaître l'histoire et les dessous de certaines chansons révolutionnaires. Pour vous mettre dans le bain, on va en partir une à l'instant. Caracha peut revendiquer sa place dans le patrimoine révolutionnaire. En fait, la version la plus connue de cette chanson populaire est en effet directement liée à la guerre civile mexicaine et était, semble-t-il, chantée par les troupes révolutionnaires d'Emiliano Zapata. C'est en tout cas ce que disent plusieurs sources libertaires, par exemple une brochure 100 ans de chansons qui avait été produite par le Centre international de recherche sur l'anarchisme. La coquerelle dont il est question représente au choix les troupes fédérales envoyées contre les révolutionnaires qui ne trouvaient le courage de monter au feu que ou le général mexicain Victoriano Huerta, qui, selon Wikipédia, était très capable, donc dangereux et aussi toxicomane et alcoolique, devenu après un coup d'État président de la République, que ses opposants surnommaient la cucaracha, peut-être à cause de ses lunettes rondes et foncées, ainsi que de sa redingote, et qui, sans marijuana, ne pouvait, paraît-il, plus marcher. Donc, dans la version la plus achevée, celle qu'on chante aux touristes et qui s'est répandue partout dans le monde et qui, paraît-il, est bien édulcorée par rapport à ce qu'il chantait à l'époque, il est directement fait référence à Pancho Villa à la fin. Notons que ce révolutionnaire, un bandit de grand chemin, légendaire, qui est devenu général et qui a fini assassiné, s'est allié à la fin à Emiliano Zapata. Selon Wikipédia, Villa et Zapata furent les deux seuls grands chefs révolutionnaires qui ne tournèrent jamais leur veste. Donc, quoi qu'on en dise, durant la Révolution mexicaine, l'influence libertaire n'est jamais très loin, notamment via les idées anarcho-communistes de Ricardo Flores Magón, qui aurait influencé Zapata, entre autres, et ce qui expliquerait pourquoi Zapata et Pancho Villa, aux portes de Mexico, ont refusé de prendre le pouvoir. Ils ont plutôt assiégé la ville et finalement ont fini par retourner dans leur terre. Donc peut-être un peu, s'ils avaient eu une audience d'un autre ordre, ça aurait pu être des sortes de macno mexicains. Bon, en ce qu'au moins dans le cas de Zapata. La chanson en tant que telle, qu'on connaît si bien, bon, la traduction française, c'est « Le cafard ne peut plus marcher parce qu'il lui manque de la marijuana à fumer ». Et voici que les 46 s'en vont. Ils s'en vont enfin à Perote. Ils ne peuvent pas marcher à cause de leur moustache. Les 46, ça, c'est une des tendances du... Bon, en fait, c'est les opposants aux révolutionnaires pendant la Révolution mexicaine. Perote, c'est une ville du Nord. Avec les barbes de Carranza, je vais faire une cordelière que je mettrai au chapeau de Monsieur Francesco Villa, qui est en fait ça, c'est Pancho Villa. C'est le guerrier en question. Il y a énormément de versions militantes de la cucaracha. On vient d'entendre celle, en fait, un bout de celle de Motivé. Il y a aussi Serge Ojiroyo qui en a fait. Et évidemment, bon, à chaque période, on rajoute des paroles. Ceci dit, la plus belle version récente, à mon avis, c'est celle de Lila Downs, qui a passablement changé le truc dans la plus pure tradition de cette chanson-là. Et de la plupart des chansons révolutionnaires, dans le fond, qui sont presque toutes des trucs qui se modifient avec le temps et avec les enjeux. Donc Lila Downs, la cucaracha.
La cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. fue la Junta de Naciones a poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo cuando y dónde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición, una cucaracha, por culpa y omisión.
Votre fait sur les ondes de CQIA 88.3, c'est l'heure des plugs, ma foi, et de la conclusion. Dimanche, si vous êtes à Québec, il y a une conférence à 19h30 le 16 novembre à la Québec Literary and Historical Society. C'est pas un endroit qu'on fréquente beaucoup. Normalement, en fait, je suis persuadé que la plupart des gens, des auditeurs, les auditrices savent pas nécessairement que ça existe. C'est au Marin Center, c'est la 44 Chaussée des Écossais, Vieux-Québec, à côté de la bibliothèque de l'Institut canadien. En fait, c'est une conférence de Malcolm Reed, illustrée de dessins sur le Québec et ses écrivains engagés 1960-1970, parti pris committed. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Malcolm, c'est un des secrets les mieux gardés de Québec. C'est un spécialiste de la Nouvelle Gauche, de la contre-culture des années 60 et de Leonard Cohen. C'est un journaliste, écrivain, entre autres un livre sur parti pris, illustrateur, poète, cofondateur du journal Abraham et de l'Université populaire et militant émérite de la gauche sociale et libertaire de Québec depuis plus de 30 ans. Donc voilà, ces conférences qui sont malheureusement un peu moins fréquentes depuis quelques années sont toujours des happenings très plaisants et inspirants. En tout cas, c'est un bonhomme inspiré qui en général pigmente ces trucs de tonnes d'anecdotes et de trucs vraiment intéressants. C'est pas banal. Sinon, ben, la semaine prochaine, on dirait que les groupes communautaires se sont donné le mot pour organiser des manifestations. Je pense qu'il y en a presque tous les jours, mais j'aimerais attirer votre attention sur deux en particulier. Donc, le 18 novembre, il y a une grande manifestation pour le contrôle des loyers et le registre des baux. C'est pas parce que nos loyers sont chers que nos logements sont en bon état. C'est organisé par le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Le rassemblement est à 13h sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, 410 rue Saint-Jean. Vous n'êtes pas obligé d'être membre d'un groupe populaire pour y aller. Et sinon, le lendemain, le 19 novembre à 14h, il y a une manifestation du Front commun des personnalités sociales du Québec pour revendiquer la pleine indexation prévue dans la loi des prestations d'aide sociale, la fin des catégories qui divisent les assistés sociaux en personnes aptes et inaptes et l'arrêt de la coupure de la pension alimentaire, parce qu'il faut savoir que les pensions alimentaires qui sont versées à des personnes à l'aide sociale sont en fait versées à l'État, parce que le premier 100$ est donné à la mère et la balance est coupée du chèque. Donc voilà, le Front commun des personnalités sociales du Québec vous invite à manifester pour réclamer au gouvernement ces trois mesures urgentes. Donc 19 novembre à 14h au Parlement sur le boulevard René Lévesque. Manifestation nationale, c'est ce qui met fin à cette édition de Voix de Fait. C'était Nicolas
et Guillaume.
Ainsi que... par le coup.